Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du mercredi 29 mai 2024. Élections législatives en Afrique du Sud, près de 28 millions d'électeurs étaient appelés ce mercredi à choisir 400 députés qui éliront le prochain président.
Nous espérons que nos vies allaient changer en tant que personnes noires. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le chemin, mais ils nous ont promis des choses et ils ne tiennent pas ces promesses.
Compte rendu du vote à suivre dans la partie magazine. En RDC, le nouveau gouvernement a été formé 5 mois après la présidentielle. Le président sénégalais est attendu demain, jeudi, au Mali et au Burkina Faso. Gary Conny, un diplomate des Nations Unies, a été nommé premier ministre d'Haïti. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En Afrique du Sud, quelques 27,6 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes ce mercredi pour des élections législatives. L'ANC au pouvoir depuis 30 ans tente de déjouer les pronostics et de conserver sa majorité dans un scrutin qui s'annonce particulièrement disputé. Éric Manirakiza.
Quelques bureaux ont ouvert avec retard dans la matinée, a regretté la commission électorale à la mi-journée, mais aucun incident significatif n'a été rapporté. À Soweto, le président Cyril Ramaphosa, 71 ans, très souriant, a assuré une nouvelle fois que la victoire du Congrès national africain ANC ne faisait aucun doute. Le chef du premier parti d'opposition DA a pour sa part évoqué une ère nouvelle, soulignant que le pays a l'opportunité d'un changement. Les Sud-Africains doivent choisir parmi une cinquantaine de listes à la proportionnelle pour élire 400 députés, ainsi que les assemblées des 9 provinces du pays. La participation a baissé au fil des quinquennats, passant de 89% en 1999 à 66% aux dernières élections en 2019. Mais ce scrutin est sans aucun doute le plus imprévisible depuis 1994, relève l'analyste politique Daniel Silk. L'Afrique du Sud est plombée par un fort taux de chômage de 33%, une inégalité record, de nombreux scandales de corruption, des coupures incessantes d'eau et d'électricité.
Le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo a été dévoilé ce mercredi à la télévision nationale. L'annonce intervient plus de 5 mois après la réélection du président Félix Tshisekedi et près de 2 mois après la nomination de la première ministre Judith Suminwa-Tuluka. Dani Talani pour plus de précisions.
La nouvelle équipe gouvernementale congolaise compte 54 membres contre 57 pour le précédent gouvernement. Parmi les changements notables, les ministres des Affaires étrangères Christophe Lutundula, de l'Intérieur Peter Kazadi, des Finances Nicolas Kazadi quittent le gouvernement et sont remplacés respectivement par Thérèse Kayikamba Wagner aux Affaires étrangères, Jackman Chabani à l'Intérieur et Doudou Fouamba Likoundé aux finances. Plusieurs ministres ont été reconduits comme Eve Bazaïba, qui reste à l'environnement, et Patrick Mouyaya, qui demeure ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Pour les permutations, Jean-Pierre Bemba passe de la défense, où il est remplacé par Guy Kabombo Mouadjamvita au transport. C'est une coalition de différents partis. Il y a eu des discussions, des compromis, a déclaré Eric Nindou, directeur de la communication de la présidence, expliquant ainsi pourquoi la publication du gouvernement avait pris du temps.
Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Emmanuel Zungrana, poursuivi pour des faits présumés de tentative de déstabilisation et remis en liberté provisoire mardi, a été enlevé ce mercredi. D'après son épouse Aminata Diarra, M. Zungrana, 42 ans, avait été interpellé une première fois et incarcéré notamment pour tentative de déstabilisation des institutions de l'État le 14 janvier 2022, alors que le Burkina était encore gouverné par le régime civil de Rochma Christian Kabore. Le chef de l'État sénégalais Bassirou Diomaye Faye est attendu demain au Mali, puis au Burkina Faso, indique la présidence sénégalaise. Ce serait sa première visite dans des pays de l'Alliance des États du Sahel qui ont récemment tourné le dos à la CEDEAO. Yacouba Ouedraogo.
D'après le communiqué de la présidence sénégalaise, ces visites s'inscrivent dans une dynamique de renforcement des liens historiques, de bon voisinage, d'amitié fraternelle, de solidarité et de coopération multiforme. Depuis son investiture début avril, le président Diomaye Faye a fait des déplacements chez plusieurs de ses voisins, mais aussi en Côte d'Ivoire et au Nigeria. En janvier, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont tourné le dos à la France, ont annoncé leur retrait de la CEDEAO, qu'ils accusent d'être inféodés à Paris et de ne pas assez les soutenir dans la lutte contre les djihadistes. Diomaye Faye dit vouloir les faire revenir au sein de la CEDEAO. Lors d'une visite à Accra, le président Nana Akufo-Addo lui a demandé de jouer un rôle dans la résolution de la crise entre l'AES et l'organisation régionale. Samedi, le président sénégalais s'est rendu en Guinée où il a rencontré le président de transition Mamadi Doumbouya. Les deux chefs d'État ont dit partager la même vision sur la promotion du panafricanisme et de l'intégration sous-régionale.
L'armée allemande autorisée à conserver une base aérienne au Niger. L'armée allemande va pouvoir continuer à exploiter sa base de transport aérien dans le pays dans le cadre d'un accord intérimaire conclu avec ce pays du Sahel qui a imposé le retrait des troupes françaises et américaines, a indiqué le ministère allemand de la Défense. Cet accord va permettre à la base aérienne de la Bundeswehr à Niamey de continuer à être exploitée au-delà du 31 mai, date d'expiration de l'accord existant, précise Berlin. Les manifestations et rassemblements publics ont été interdits ce mercredi dans l'état de Kano, dans le nord du Nigeria, afin d'éviter que la forte rivalité entre deux émirs ne dégénère en violence, ont annoncé les autorités. La semaine dernière, le gouverneur de l'état de Kano, Abba Kabir Youssouf, a rétabli l'ancien émir Mouhamadou Sanoussi II sur le trône, 4 ans après sa destitution par le gouverneur précédent, au profit d'Aminu Ado Bayero, lequel avait été destitué jeudi. Refusant de s'avouer vaincu, M. Bayero continue de se proclamer émir de Kano et a saisi la justice qui se prononcera début juin, s'estimant légitime à rester sur le trône.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le conseil présidentiel de transition en Haïti choisit Gary Conille pour devenir le nouveau premier ministre intérimaire. Le médecin de 58 ans a été nommé à la suite de la démission en mars du premier ministre Ariel Henry face à une flambée de violence des gangs dans le pays. Alexandrine Ollongon.
Gary Conille avait été choisi lors d'un vote à 6 contre 1 mardi dans l'après-midi. Il avait déjà brièvement occupé le rôle de premier ministre en Haïti de 2011 à 2012. La nomination d'un premier ministre intérimaire était attendue après la mise en place du conseil présidentiel de transition qui a pris le pouvoir le mois dernier lorsque le premier ministre Ariel Henry a présenté sa démission officielle. Haïti attend le déploiement d'une force multinationale dirigée par le Kenya et chargée de reprendre le contrôle de la capitale, dont des gangs contrôlent des pans entiers. La mission soutenue par l'ONU et dans laquelle les États-Unis sont très impliqués sur le plan logistique doit épauler la police haïtienne. Le Kenya et les autres pays qui se déploieront en Haïti ont pour objectif de sécuriser ce pays et de briser les gangs et les criminels qui ont infligé des souffrances indicibles à ce pays, avait déclaré le président kényan William Ruto la semaine dernière.
Israël a besoin d'un plan pour l'après-guerre dès que possible, a déclaré ce mercredi le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Monsieur Blinken réagissait aux déclarations du conseiller israélien à la sécurité nationale, Tzachi Hanebi, mercredi, pour qui les combats pourraient encore durer 7 mois en vue de détruire les capacités de pouvoir et les forces militaires du Hamas. Les condamnations internationales se multiplient après des frappes à Rafah qui ont provoqué un incendie ayant ravagé dimanche un camp de tentes de personnes déplacées. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite en Moldavie a réaffirmé aujourd'hui son soutien à ce pays frontalier de l'Ukraine qui aspire à se rapprocher des Occidentaux au moment où Washington s'inquiète des avancées et des ingérences russes dans la région. Cette visite de quelques heures intervient à un moment où la Russie engrange des victoires sur le champ de bataille, ravivant le débat autour de la possibilité accordée à l'Ukraine d'utiliser ou non des armes occidentales contre le territoire russe. Les alliés de l'Ukraine vont s'adapter et ajuster leur livraison d'armes pour lui garantir un succès, a cet égard déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie américaine. Et puis, les 12 jurés au procès de Donald Trump à New York ont commencé ce mercredi à délibérer pour trouver un verdict. Le délibéré des jurés peut prendre plusieurs jours. Il leur faudra être unanime pour déclarer Donald Trump coupable ou non coupable. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
L'Égypte a annoncé ce mercredi quadrupler le prix de vente du pain subventionné dont bénéficient 71 millions de personnes. Une première depuis trois décennies dans ce pays, frappé par une des pires crises économiques de son histoire. Le premier ministre Mustapha Madbouly a expliqué que la galette de pain vendue à 5 piastres l'unité serait désormais proposée à 20 piastres à partir du 1er juin. Le Nigeria pourrait produire 6 millions de barils de pétrole par jour avec des investissements adéquats dans son secteur énergétique, a déclaré son ministre du pétrole, Eneken Lokpobiri, lors de la conférence sur les technologies offshore à Houston, aux États-Unis. Il a accusé les pays occidentaux d'utiliser l'accès au Capitole pour obliger l'Afrique à ne pas explorer ses ressources pétrolières et gazières. Mais Joe Mensah, vice-président de Kosmos Energy, a estimé que l'argent n'est pas le principal problème, mais plutôt le leadership et la discipline en matière de corruption. Pour terminer, en Afrique du Sud, le taux de chômage a augmenté au premier trimestre pour atteindre 32,9% de janvier à mars. Le nombre de personnes sans emploi a augmenté de 330 000 à 8,2 millions selon l'Agence nationale des statistiques. Le chômage des jeunes a atteint 45,5% en hausse de 1,3% par rapport au trimestre précédent.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Samuel Eto'o nomme un staff intérimaire à la tête des Lions Indomptables du Cameroun.
Eh oui, un encadrement intérimaire conduit par Martin Tungu-Pilé a été désigné par le président de la Fédération Camerounaise de Football. La décision a été prise au terme d'un comité d'urgence de la FECAFOOT après le clash d'hier entre Samuel Eto'o-fils et le sélectionneur belge des Lions Indomptables, Marc Brise, désigné par le ministère des Sports. De Yaoundé, les précisions de notre correspondant Emmanuel Gelontap.
Cinq manquements ont été retenus contre le Belge Marc Brise et ses assistants, d'après le comité d'urgence de la Fédération Camerounaise de Football. Le comité à l'unanimité constate, je cite, que ces manquements constituent une faute lourde et un refus manifeste de collaborer avec la Fédération, fin de citation. Notamment, la publication de la liste des joueurs et la tenue d'une conférence de presse en violation des procédures de la FECAFOOT ou encore le refus de communiquer le programme d'entraînement des Lions Indomptables. Il a aussi reproché au sélectionneur belge ses propos irrévérencieux contre le président de la Fédération Camerounaise de Football, précise le même communiqué, allusion faite au clash d'hier entre les deux hommes au siège de la FECAFOOT au cours d'une réunion de travail avortée. La FECAFOOT a ainsi décidé de confier à titre intérimaire l'encadrement technique de l'équipe nationale à deux locaux, Martin Tungu-Pilé et David Pagou, pour les matchs des 8 et 11 juin prochains contre le Cap-Vert et l'Angola, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Basketball Africa League avec les demi-finales de la saison 4 qui se jouent à la Biké Arena de Kigali.
On connaît le premier qualifié pour la finale de cette saison 4. Il s'agit des Libyens d'Alali Benghazi qui ont battu les Rivers Hoopers du Nigeria 89-83 après prolongation en demi-finale donc à la Biké Arena de Kigali. C'est un coup de maître pour les Libyens qui participent à la balle pour la première fois en finale. Ils vont faire face aux Cape Town Tigers d'Afrique du Sud ou aux Angolais de Petro de Luanda. Ces deux derniers s'affrontent dans la seconde demi-finale de ces playoffs.
Basketball toujours, mais cette fois-ci en NBA, Minnesota gagne et se donne un sursis à Dallas.
Eh oui, les Timberwolves ont enfin arraché un succès contre les Dallas Mavericks, 105-100 au Texas, pardon. Minnesota a pu compter sur le réveil de Karl Anthony Towns, qui s'est distingué lors du quatrième quart-temps avec deux paniers à trois points consécutifs à 5 minutes du terme pour une soirée à 25 points, tout comme le jeune leader Anthony Edwards, qui a compilé 29 points et 10 rebonds. Les Wolves ne sont plus menés que de 3-1 en finale de cette conférence Ouest et évitent ainsi l'humiliation d'un sweep en temps des coups de balai. Dallas reste toutefois le grand favori pour rejoindre Boston, qui a balayé Indiana 4-0 en finale NBA. Jamais une équipe n'a réussi à renverser une série de playoffs NBA après avoir été menée 3-0.
Page de sport VOA Afrique, signé Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. En Afrique du Sud se tiennent aujourd'hui des élections qui s'annoncent très disputées. Le parti de Nelson Mandela, ancien mouvement de lutte contre l'apartheid, est de plus en plus critiqué. Lors de ce scrutin, il pourrait pour la première fois depuis 30 ans perdre sa majorité au Parlement et être forcé de former une coalition. Patricia Huon est notre correspondante à Johannesburg.
C'est l'heure du bilan pour l'ANC. Aujourd'hui, les Sud-Africains pourraient, avec leur vote, sanctionner le parti au pouvoir depuis trois décennies. Comme cette habitante de Soweto, le grand township au sud de Johannesburg, qui exprime son ras-le-bol.
Nous espérons que nos vies allaient changer en tant que personnes noires. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé sur le chemin, mais ils nous ont promis des choses et ils ne tiennent pas ces promesses. Il n'y a pas de travail, la vie est dure, pas d'eau, pas d'électricité. J'ai un enfant, elle va à l'école, il y a le transport, la nourriture. Maintenant, ils veulent que l'on vote pour eux parce qu'ils sont en difficulté, mais quand ce sera terminé, ils nous oublieront.
Chômage massif, criminalité record, corruption, déliquescence des infrastructures. La désillusion à l'égard de l'ANC semble généralisée, pas seulement parmi les plus pauvres. Karabo Maloka vit dans une banlieue aisée du nord de Johannesburg et incarne cette classe moyenne noire qui a émergé après la fin de l'apartheid.
À l'heure actuelle, il n'y a rien dont ils peuvent être fiers. J'ai regardé tous les autres partis en liste et j'avoue qu'aucune ne m'enthousiasme vraiment. Mais l'objectif, c'est de donner un avertissement à l'ANC et de leur faire perdre des voix.
À Westin, un quartier de la capitale économique habité principalement par la classe moyenne, de longues queues se sont formées dès le matin devant les bureaux de vote.
C'est la première fois en plus de 10 ans que je vois autant de personnes qui viennent voter. Les gens sont fatigués de l'ANC, leurs fausses promesses, la corruption. Ils laissent l'Afrique du Sud pourrir. Les gens veulent un changement.
Un autre électeur, lui, garde espoir que l'ANC pourra améliorer sa gouvernance et s'inquiète d'un éventuel gouvernement de coalition.
Cela m'inquiète, cela va amener de l'instabilité. On a vu cela avec certaines municipalités et on changeait de maire chaque année. Oui, il reste beaucoup à faire, mais les médias ne parlent pas de ce qui a été réalisé par le parti au pouvoir. Seulement de ses erreurs.
Des dizaines de partis sont en lice pour cette élection. Certains ne devraient obtenir que quelques pourcents des voix, mais pourraient se retrouver en position de faiseur de roi. Sauf coup de théâtre, l'ANC restera le plus gros parti au Parlement à l'issue du scrutin. François Conradi, analyste sud-africain auprès de Oxford Economic Africa.
La préférence de l'ANC sera d'entrer en coalition avec de petits partis qui draineront des petits pourcentages des votes, parce que dans ce cas, l'ANC n'aura pas à dévier de sa politique. Mais cela ne sera possible que si l'ANC gagne, disons, en plus de 45% de la part du vote.
Les résultats définitifs devraient être annoncés le dimanche 2 juin. À Johannesburg, Patricia Huon pour VOA Afrique.
La région du Sahel est devenue le nouvel épicentre du terrorisme mondial, incitant les pays du monde entier à intensifier leurs efforts pour contrer la violence par le biais d'entraînements militaires tels que les exercices Flintlock 2024 au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les analystes estiment cependant que remédier aux déficiences économiques de la région constituerait un moyen de dissuasion plus efficace. Le reportage de Sanenou Tord à Tamale au Ghana. Le récit est de Nathalie Barge.
À l'aéroport international de Tamale au Ghana, les troupes s'entraînent dans une simulation de fusillade. Cet exercice fait partie du partenariat de sécurité entre les États-Unis et l'Afrique, visant à renforcer les efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Le major général Todd Westmund, commandant de la force opérationnelle d'Europe du Sud des forces américaines en Afrique.
L'objectif le plus important de ces exercices est de renforcer les capacités de partenaires. Nous nous concentrons sur des choses comme préparer le terrain, développer l'interopérabilité et les aider à développer les capacités nécessaires pour atteindre leurs objectifs de sécurité en Afrique.
Organisée par le département américain de la défense, l'opération Flintlock 2024 travaille avec des experts de la sécurité d'Europe, d'Asie et d'une trentaine de pays partenaires au Ghana et en Côte d'Ivoire. Pendant 2 semaines, ils participent à des simulations de combat et partagent des renseignements sur la lutte contre le terrorisme. Nana Abena Darkoa Dapa, major dans l'armée ghanéenne.
Nous constatons que les activités des éléments terroristes et armés progressent et nous devons trouver les voies et moyens pour y répondre.
Des analystes de la sécurité affirment cependant que la focalisation sur les réponses militaires au terrorisme au Sahel a échoué. Selon l'indice mondial du terrorisme 2024, publié par l'Institut pour l'économie et la paix, l'Afrique subsaharienne est devenue l'épicentre mondial du terrorisme avec plus de 50% des décès dus à l'extrémisme violent. Moutarou Moumouni Mouktar, directeur exécutif du Centre africain de lutte contre l'extrémisme, critique l'approche militariste.
Cela a suscité de nombreuses doléances au sein de la population locale. Elle a ignoré les réalités des vulnérabilités ou les moteurs de l'extrémisme violent, les questions de sécurité humaine, de création d'emplois, la lutte contre la vulnérabilité et la marginalisation des jeunes.
Mouktar affirme que les jeunes vulnérables sont facilement radicalisés.
Les jeunes moyens pensent que les engagements du FMI avec l'Afrique sont construits autour des conditionnalités qui les empêchent de stimuler une croissance économique qui puisse permettre à l'État de recruter ou de créer des emplois pour les jeunes, et ils blâment donc l'Occident.
Ce sentiment se reflète dans des appels croissants lancés aux pays africains pour les inciter à rompre leurs relations avec leurs partenaires étrangers. Les États-Unis ont annoncé en avril qu'ils vont retirer leurs troupes du Niger et du Tchad. Virginia Palmer, ambassadrice des États-Unis au Ghana.
Les États-Unis discutent toujours de la manière dont les relations de sécurité avec le Niger, par exemple, seront gérées. Et nous tous, y compris le Ghana et d'autres pays de la CDAO, sommes préoccupés par un recul démocratique.
Certains experts affirment que si les relations tendues et les déficiences économiques dans la région du Sahel ne sont pas résolues, l'approche militaire à elle seule ne parviendra pas à mettre un terme à l'extrémisme violent.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, les populations déplacées sont de plus en plus en insécurité dans les sites où elles sont placées à cause des combats, surtout à Goma, capitale de la province du Nord Kivu. Médecins sans frontières lance un appel au respect des droits de ces personnes, car nombre d'entre elles ont été blessées par les attaques et les obus, et la plupart sont contraintes de se déplacer à répétition. Eddie Sango a joint à Goma la chef de mission de Médecins sans frontières Hollande, en RDC, Natalia Torrent.
Ce qu'on a constaté, surtout dans les derniers mois, c'est qu'on voit un recrudescement de les conflits armés, et surtout, ce conflit s'était approché dans les grandes villes, à la grande ville de Nord Kivu, surtout à Goma. Et c'est, à Goma, c'est un endroit où il y avait déjà beaucoup de réfugiés depuis 2023. Ils sont arrivés en ville, surtout pour trouver deux endroits sûrs. Maintenant, ce qu'on a vu depuis début février, que c'est qu'on va, ils sont arrivés proches de la ville. On a constaté plus de population en arrivant à Goma, mais aussi on voit que la ligne de front c'est assez proche et ça nous inquiète parce que avec ces grandes populations, ces civils qui sont proches en ligne de front, on constate que la situation et le respect à l'étroit humanitaire international, ce n'est pas toujours assuré.
En clair, qu'est-ce que vous voulez dire? Que les camps des déplacés sont attaqués et il y a par conséquent beaucoup de blessés parmi les déplacés?
Les lignes de front ne sont pas loin de la population civile. Parfois, la population civile s'est prise dans les combats. On a constaté, on a vu depuis février, une augmentation du nombre de blessés qui arrivent dans les structures sanitaires de MSF, victimes de violences, victimes des obus, victimes des armes de guerre. Ça, c'est qu'on constate. Parce que c'est clair, on voit que les théâtres d'opérations militaires sont proches à les sites de civils. Ça nous inquiète parce que parfois et par ailleurs, il y a des bombes aussi qui tombent dans de villes, mais aussi proches à les camps. Et même, on a constaté aussi qu'il y a eu des bombes qui sont tombées dans les camps de déplacés.
Avec cette situation, combien difficile est votre tâche? Qu'est-ce que vous éprouvez comme difficulté pour aider ces déplacés?
Proche à Goma, c'est presque 1 million de populations déplacées qui sont dans les alentours de Goma. Alors, ce qu'on voit et ce qu'on constate, c'est que les besoins sont assez grands. Les besoins en nourriture, les besoins en abri, les besoins en services, en infrastructure, de l'eau et l'assainissement sont grands. Les besoins aussi d'accès à santé sont grands. Alors, MSF, on a déployé pas mal d'équipes sur cette camp pour assurer et pour couvrir quelques besoins de la population, mais aussi la situation proche des camps, c'est pas toujours secure. Ça nous met en complexe décision de voir d'arrêter les activités, surtout pour assurer que les équipes vont bien, et surtout pour aussi pour empêcher que c'est nous qui attirent beaucoup de population dans les services et on met en risque aussi cette population.
Et comme les combats se déplacent un peu plus au nord et plus au sud, vers le sud, quelles en sont les conséquences?
Ce qu'on voit, c'est que la population, de population qui se déplace et se redéplace en aggravant leur situation de vulnérabilité. Tous les nouveaux arrivés à Goma, mais aussi les Sud-Kivu, ce n'est pas épargné.
Natalia Toran, chef de mission de Médecins sans frontières, Hollande en RDC.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique 24h sur 24 à Goma en RDC sur 96.2 FM.
Les candidats à l'élection présidentielle américaine de novembre, le président sortant Joe Biden et son prédécesseur Donald Trump font tous deux campagne pour obtenir le soutien des électeurs noirs. Scott Stern, correspondant de la VOA, examine comment les campagnes présidentielles ciblent les Africains-Américains. Le récit est d'Eric Manirakiza.
Donald Trump a déclaré aux électeurs de New York que tous les Américains bénéficieront de son élection.
It doesn't matter whether you're black.
Peu importe que vous soyez noir, brun, blanc, ou peu importe votre couleur, cela n'a pas d'importance. Nous sommes tous des Américains et nous allons nous unir en tant qu'Américains.
Joe Biden, lui, a déclaré aux défenseurs des droits civiques dans le Michigan que tous les Américains sont représentés dans son cabinet.
Nous avons plus d'Africains américains, nous avons plus de femmes, nous avons plus de minorités dans notre administration que toute autre administration de toute l'histoire. C'est pourquoi nous réussissons si bien.
Trump et Biden font tous deux campagne pour obtenir le soutien des électeurs noirs dans une élection où cela pourrait faire la différence dans les États clés qui pourraient décider de l'issue du scrutin. Les données du Pew Research Center montraient que les préoccupations majeures pour les Africains-Américains en 2024 sont l'amélioration de l'éducation et le renforcement de l'économie. Trump dit qu'il s'attaquera à ces deux éléments.
Nous allons ramener le succès dans nos écoles, nous allons ramener la prospérité dans chaque quartier, dans chaque arrondissement de la plus grande ville de notre pays.
La campagne de Biden cible les électeurs noirs avec cette publicité sur Trump à New York. Le manque de respect de Donald Trump envers les Noirs n'est pas nouveau. Il a été poursuivi pour avoir refusé de louer ses appartements à des familles noires et a appelé à l'exécution de 5 adolescents noirs et bruns innocents. Biden dit que Trump est un candidat vengeur dont l'élection nuirait aux minorités.
Trump ne se présente pas pour diriger l'Amérique, il se présente pour se venger, pour se venger. Ce n'est pas une façon de diriger le pays, on ne peut pas construire un avenir sur la vengeance. On ne peut pas construire de meilleures vies par la vengeance. C'est pourquoi je me présente pour conduire l'Amérique vers l'avenir.
L'immigration est un thème central de la campagne de Trump, un thème qu'il a adapté aux électeurs minoritaires du South Bronx.
Les Africains-Américains se font massacrer. Les Hispano-Américains se font massacrer. Et ces millions et millions de personnes qui entrent dans notre pays, l'impact le plus important et le plus négatif est contre notre population noire et notre population hispanique qui perdent leur emploi, perdent leur logement, perdent tout ce qu'ils peuvent perdre.
Biden a dit aux électeurs noirs qu'il avait encore besoin d'eux pour battre Trump.
Vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est l'ancien président vaincu et vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump sera à nouveau un perdant.
Il y a 4 ans, les électeurs noirs ont choisi Biden plutôt que Trump à 92%. Depuis le mois dernier, les données du centre Pew Research indiquent que ce chiffre est passé à 77% des électeurs noirs qui voterait ou penche pour Biden contre 18% pour Trump.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Joselle Morissin. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24.